Laudetur Jesus Christus.
Ce jeudi 20 juin est la journée mondiale des réfugiés de l'ONU, l'occasion de rappeler que la réalité de la migration forcée est de plus en plus importante dans le monde. Nous entendrons au début de ce journal l'un des responsables du JRS, le service jésuite des réfugiés. Un espoir pour plus de vaccins produits en Afrique, c'est ce qui ressort d'un forum organisé aujourd'hui à Paris en présence de plusieurs chefs d'État africains. L'objectif, rendre moins dépendant le continent africain où 99% des vaccins sont importés de l'étranger. À la une de ce journal également, la Corée du Sud prête à fournir des armes à l'Ukraine, conséquence directe du déplacement de Vladimir Poutine à Pyongyang hier et avant-hier. Et puis l'Église de France prend la parole à 10 jours du premier tour des élections législatives. Le Conseil permanent de la Conférence des évêques invite chaque citoyen au discernement et à la responsabilité et propose une prière. Nous y revenons en détail à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir, prions pour ceux qui fuient leur pays. Telle est l'intention de prière du pape François que nous vous avions partagée en début de ce mois de juin. Un thème qui fait écho à la journée mondiale du réfugié promue par l'ONU et qui a lieu comme chaque année le 20 juin. En cette année 2024, plus de 117 millions de personnes à travers le monde ont été déplacées de force et 75% de ces personnes, selon les Nations Unies, sont accueillies d'ailleurs dans des pays pauvres, souvent frontaliers avec leur terre d'origine. Le père Eric Goé-Akwe est le coordinateur du secteur Mission et identité du JRS, le service jésuite des réfugiés. On l'écoute.
La réalité des personnes déplacées de force dans le monde, qu'il s'agisse de déplacés internes dans leur propre pays ou de réfugiés contraints de fuir vers des pays étrangers, cette réalité représente une tragédie humaine globale. Dans ce contexte, célébrer une journée dédiée aux réfugiés, c'est non seulement rappeler au monde l'étendue réelle de cette catastrophe humanitaire, mais c'est aussi rappeler à chacun de nous notre devoir d'accueillir et de soutenir nos frères et sœurs en exil. Ces personnes ont perdu leur foyer, leur famille, leur dignité, leurs biens. C'est une occasion de lutter contre la mondialisation de l'indifférence. À la fin de l'année 2023, les Nations Unies ont signalé que plus de 117 millions de personnes étaient déplacées de force dans le monde en raison de la persécution, des conflits, de la violence, des violations des droits de l'homme ou d'événements perturbant gravement l'ordre public. Pire encore, la précarité sociopolitique et économique de nombreux pays accueillant des réfugiés aggrave cette crise humanitaire. Les pays les plus pauvres comme le Tchad, l'Éthiopie, le Soudan et l'Ouganda supportent le plus lourd fardeau en accueillant 75% des réfugiés dans le monde. À cela s'ajoute un manque de financement adéquat et l'absence de mécanismes de redevabilité à l'échelle mondiale.
Le père Eric Goé-Akwe, coordinateur du secteur Mission Identité au JRS, y répondait aux questions de Christian Lossambé. Parmi les pays les plus concernés par cette réalité de la migration forcée, le Soudan, déchiré depuis avril 2023 par une sanglante guerre civile, près de 10 millions de Soudanais ont déjà fui leur foyer, le pays qui est désormais le théâtre de l'une des pires crises humanitaire de ces dernières décennies, a rappelé aujourd'hui Médecins sans frontières, MSF, qui déplore que certaines régions soudanaises ne soient toujours pas accessibles à l'aide humanitaire et médicale. L'Afrique, qui était au cœur d'un sommet international organisé ce jeudi à Paris pour améliorer l'accès du continent aux vaccins, une réunion co-organisée par la France, l'Union africaine et l'Alliance du vaccin. Un fonds de plus $1 milliard a été annoncé afin d'accélérer la production de vaccins sur le continent africain, fonds financé aux trois quarts par la Commission européenne. L'Union africaine s'est-elle fixée pour objectif de couvrir 60% de ses besoins vaccins par la production locale d'ici 2040. À la tribune ce matin, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a résumé les enjeux de cette rencontre pour les pays d'Afrique.
L'Afrique, face à son destin, est confrontée à une déconcertante conjonction des défis, aussi existentiels les uns que les autres. L'autonomie même relative en matière de fabrication des vaccins et des produits de santé, occupe dans cette énumération une place des plus sensibles. Puisqu'au regard des chiffres actuellement disponibles, le continent est toujours au niveau du plancher. La première exigence de notre sommet est d'unir fortement nos voix et surtout nos efforts pour changer cet insupportable paradigme. Je dois cependant mettre en exergue que malgré l'importance des rencontres internationales, dont celle qui nous réunit aujourd'hui, l'Afrique ne saurait puiser qu'en elle-même les ressources de son salut. La souveraineté sanitaire, vaccinale notamment, comme la souveraineté politique, se conquiert. Il faut la considérer comme telle. Il faut la gagner comme telle. L'indépendance et la liberté des nations et des peuples africains resteront profondément lacunaires tant que cette bataille n'est pas gagnée.
Moussa Faki Mahamat, le Tchadien président de la Commission de l'Union africaine, ce matin à Paris. Le chef de la junte militaire au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dément tout mouvement d'humeur au sein de l'armée, c'est son expression. Depuis mardi, des rumeurs bruissaient en effet de mutinerie dans certaines casernes du pays. Ibrahim Traoré, qui est apparu aujourd'hui au milieu de ses ministres dans des images de la télévision d'État, le 11 juin dernier, une attaque djihadiste qui avait fait plus de 100 morts chez des militaires renforçait la défiance sur la capacité de l'armée burkinabé de maintenir la sécurité. C'est l'un des effets collatéraux de la visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord ces deux derniers jours. Son voisin, la Corée du Sud, a annoncé aujourd'hui reconsidérer son interdiction d'envoi d'armes à l'Ukraine. Une décision motivée par la signature hier d'un accord de défense entre Kim Jong-un et le président russe à Pyongyang. Les précisions de notre correspondant à Séoul, Clément Le Breton.
Verrons-nous des armes sud-coréennes utilisées en Ukraine? C'est en tout cas ce que considère le gouvernement sud-coréen. Jusqu'à présent, Séoul s'était interdit de vendre des armes dans des zones de conflit. Une décision à laquelle la Corée du Sud s'était accrochée malgré l'insistance de Washington et de Kiev. L'idée était dans le même temps de ne pas se mettre à dos Moscou, qui pourrait en retour soutenir la Corée du Nord. Seulement, Vladimir Poutine et Kim Jong-un ont signé hier un traité de défense mutuelle, actant une alliance militaire entre les deux pays. C'est donc en réponse à ce traité que Séoul envisage de fournir des armes à l'Ukraine. Jusqu'ici, la Corée du Sud s'était contentée de fournir du matériel militaire non létal, c'est-à-dire des gilets, casques et équipements médicaux. Si la Corée du Sud envoie effectivement des armes à l'Ukraine, ce conflit pourrait devenir le théâtre d'affrontements entre équipements nord et sud-coréens. En effet, la Corée du Nord fournit également des missiles et des munitions à la Russie. Clément Le Breton, Séoul, Radio Vatican.
Vladimir Poutine qui poursuit sa tournée asiatique au Vietnam ce jeudi. Des accords militaires, mais aussi dans le domaine de l'énergie, de l'éducation et du tourisme sont prévus. Sur le terrain de la guerre en Ukraine, le réseau énergétique a lui été une nouvelle fois fortement endommagé par des frappes russes la nuit dernière. La 7e attaque massive contre des centrales électriques, selon l'opérateur DITEC. Et puis l'archevêque latin de Lviv, la grande ville de l'ouest ukrainien, appelle lui les Européens à ne pas rester indifférents sur la guerre qui déchire son pays. Monseigneur Mokrzycki, qui était à Rome ces jours-ci et qui remercie le pape François de mentionner si souvent son pays martyrisé. Il invite à se joindre à la prière pour la paix le 21 juillet qui aura lieu au sanctuaire marial de Berdivich, où sera présent notamment l'envoyé du pape, le cardinal Pietro Parolin. La campagne électorale se poursuit à marche forcée en France à l'approche des élections législatives anticipées. Le premier tour aura lieu dans 10 jours seulement. 3 blocs s'affrontent. L'extrême droite, menée par le Rassemblement national, le nouveau Front populaire, Union des partis de gauche et le camp de la majorité présidentielle affaibli par les récentes élections européennes et l'impopularité du président Emmanuel Macron. Le climat est délétère. C'est dans ce contexte tendu que les évêques de France prennent la parole, invitant à la responsabilité de chaque citoyen et à discerner pour œuvrer à une meilleure société. Xavier Sartre.
Pas question de se taire à l'approche des législatives. Les évêques français estiment que la dissolution de l'Assemblée nationale par le président a placé la France dans un trouble inattendu. La société est inquiète, douloureuse et divisée, analyse-t-il, à la lecture des résultats des européennes qui ont placé largement en tête le parti d'extrême droite Rassemblement national. Or, les élections à venir, dans 10 jours, ne résoudront pas tout, estime-t-il. Voulant être des citoyens responsables, les évêques considèrent que le malaise social profond qui agite les Français tient à l'individualisme et à l'égoïsme dans lequel nos sociétés se laissent entraîner depuis des décennies, à la dissolution des liens sociaux, à la fragilisation des familles, à la pression de la consommation, à l'affaiblissement de notre sens du respect de la vie humaine, à l'effacement de Dieu dans la conscience commune. La conférence épiscopale invite ainsi les citoyens à la responsabilité face aux divisions et aux fractures. Nous aurons encore et toujours à respecter nos concitoyens qui auront d'autres opinions que les nôtres, et à œuvrer ensemble à la continuité et à l'amélioration de notre vie sociale commune, écrivent ainsi les évêques, qui font le vœu que la foi des chrétiens et la confiance en Dieu puissent les aider à surmonter leur colère et angoisse pour être des artisans de paix et des acteurs de l'amitié sociale.
Xavier Sartre et les évêques qui proposent aux fidèles qui veulent s'y unir une prière à l'approche de ces législatives. Viens, Esprit Saint, éclairer celles et ceux qui seront choisis comme députés ou auront à gouverner notre pays, lit-on notamment dans cette prière que vous pouvez retrouver sur notre site vaticannews.va. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information du pape, de l'Église et du monde, ce sera demain matin à 8h30 en direct de Rome, bien sûr. Excellente soirée.